Ich bin ein Berliner.
Rotbier! Ich brauche ein Rotbier! Qu'est-ce qu'il dit? Rotbier!
Alors, va.
Et toc, remonte ton scribard, Lothar!
Mais sire!
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire. Ça commence maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission de la percée de l'histoire. Pardonnez-moi pour ce générique encore qui a été perturbé par une musique YouTube, mais on ne se lasse jamais des problèmes techniques ici. Donc nous nous retrouvons en ce mardi 2 juillet pour une nouvelle émission avec, en compagnie toujours, du grand, du magnifique Salouane Bendriss. Bonjour.
Bonsoir.
Ça va-t-il?
Ça va comme
comme un mardi, enfin comme un,
voilà quoi,
un lendemain de, bref, on en parlera après. Et surtout, on a la visite de Simon. Bonjour.
Bonjour, bonsoir. Comment ça va, les amis?
Ça va super, ouais. Et toi? Survie.
Bah ça va super, pareil, un peu crevé là, j'avoue. Mais c'est surtout très cool et c'est surtout de la radio. Et c'est que de la radio. Non, j'avoue que j'arrête de faire avec cette phrase. Dans ce moment, je la dis tout le temps.
Il est tout de suite, dès que le micro est allumé, il se met en mode.
Non mais ouais, je te jure. Non mais c'est trop bien. Je n'arrête pas, mais c'est trop bien. Donc voilà. Et très heureux de vous retrouver pour la percée de l'histoire.
Qu'est-ce que tu fais justement?
Je suis dans une radio concurrente dont je tairai le nom, mais en gros où je fais là actuellement des reportages. Pour des logements un petit peu qui sortent de l'ordinaire dans l'été. Et donc, ça fait que, en fait, là, je viens de me taper, en gros, en 3 jours, 300 kilomètres de route. Et ça n'est pas fini. Puisque, en fait, la Sarthe, c'est super, il y a beaucoup de trucs, mais c'est vrai que c'est très vite loin, en fait.
Oui.
On sent. Ouais, ouais, Salouane, tu peux en témoigner, toi qui vas au manoir.
Est-ce que
tu
as fait les tipis de Brulon?
Tous les jours, ouais, j'ai fait, notamment. Ouais. Ça arrive bientôt. Mais en gros, mais tu vois, le Mans-Brulon, bah, 50 bornes,
en fait,
tout de suite.
L'avantage et l'inconvénient, c'est que le Mans, c'est vraiment au centre de la Sarthe.
Ouais.
Mais du coup,
mais t'es
loin
trop
de
loin.
Tout.
Ouais, ouais, c'est clair. Donc voilà, mais j'essaye là aussi de faire des trucs, mais pas trop loin du Mans. J'en ai trouvé quelques-uns, je ferai ça demain. Mais je suis reparti aussi demain, là je vais retourner à Brulon et après je vais aller encore à Pétaouchnok. Enfin bref.
Sur les routes.
Sur les
à Pétaouchnok, évidemment. Bon, bah écoutez, c'est super. Heureusement que vous êtes là, messieurs, pour un peu, requinquer notre quotidien un peu morose, voyez-vous. Ah. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en pleine, période électorale et qu'il y a eu certains résultats qui ont fait défrayer la chronique. Défrayer la chronique. Et pour ceci, vous savez, je ne sais pas si vous êtes familier de ces news.
Le meilleur exemple est invoqué ici.
Mais en tout cas, certains journaux font des éditos, des billets d'humeur. Et j'avais envie de ce soir de faire un billet d'humeur. Sur, l'actualité.
Un appel à la France.
Voilà. Et lu par Salouane, consenti par Salouane.
Ah bon,
voilà,
très bien.
Alors, en tout cas, il l'a lu.
Oui, oui.
Je ne sais pas s'il a consenti.
Je partage ses idées très fort.
Je le lis immédiatement. Sans surprise, le renoncement national a remporté une large partie des suffrages lors du premier tour des législatives. Et pourquoi je dis sans surprise? Eh bien, depuis 2017, les présidences Macron ont été marquées par des paroles, mais aussi par des actes, visant à faire la courte échelle aux partis d'extrême droite. Et les exemples sont nombreux. Quand, par exemple, Olivier Dussopt, alors ministre du Travail, déclare en pleine Assemblée nationale, au moment de la réforme des retraites, que, je cite, « Marine Le Pen a été beaucoup plus républicaine que beaucoup de monde dans ce moment-là ». Quand Gérald Darmanin, en février 2021, à une heure de grande écoute, déclare devant l'intéressé qu'elle est, je cite, « trop molle dans ses propositions ». Et que dire d'un programme politique qui a sacrifié sur l'autel de la sainte économie l'hôpital, l'école, la fraternité, avec un grand F, les minima sociaux, les indemnités chômage qui ont failli encore être régressées pour la quatrième fois, mais promis, Chers auditeurs, cette fois-ci, la prochaine réforme d'assurance chômage est annulée. Donc, vous serez sans doute contents. Les institutions de la République en général ont été bafouées. Face à ce triste constat, certains voudraient abandonner, acceptant la fatalité d'une vie morose et fade. Mais je vous le dis ouvertement, ce serait faire une grave erreur. C'est maintenant que le combat commence. Je ne vous cache pas qu'il sera long, très long, bien après 2027. Il continuera certainement toute notre vie. Et je n'ai pas de mal à le dire. Mais souvenons-nous d'une chose, et je pèse mes mots à ce moment-là. Nous sommes Français avant tout. Et être Français, c'est d'avoir chevillé au corps la flamme sacrée de la liberté, de la justice et de la paix. Et à ceux dont les cœurs sont vides, gouvernés par des forces bestiales de cupidité et de peur, je leur dis ceci. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Allez voir par vous-même ce qui se passe dans notre beau pays qu'est la France. Et je terminerai en disant ceci. Nous sommes nés pour combattre le crime et non pour le gouverner. Voilà. Une fois n'est pas coutume, messieurs, dames, une petite virgule avant le journal historique.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Et c'est le moment de notre traditionnel journal historique, Salouane. Et dis-nous ce qui s'est passé en ce 2 juillet.
Alors, le 2 juillet dans l'histoire, nous commençons très tard avec le 2 juillet 1816. Le 2 juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoue sur un banc de sable au large de l'actuelle Mauritanie, avec 395 marins et soldats à son bord. Ce fait divers tragique va bouleverser la France et engendrer un chef-d'œuvre de l'art romantique. Le 2 juillet 1964, Johnson signe le Civil Rights Act. Le 2 juillet 1964, le président américain Lyndon Baines Johnson signe le Civil Rights Act, loi sur les droits civils, avec à ses côtés les leaders du mouvement pour les droits civiques, dont Martin Luther King. Le 6 août 1965, après d'ultimes actions non violentes du mouvement à Selma, en Alabama, le Voting Rights Act ouvre à la minorité noire le chemin des urnes en sanctionnant toutes les formes toutes les formes d'obscurcion réglementaire des fonctionnaires sudistes. Mieux encore, le 24 septembre 1965, le président signe un décret, l'Executive Order, qui enjoint aux entreprises et institutions bénéficiant de fonds fédéraux de réserver aux minorités non blanches et aux femmes une partie des emplois vacants. Nous avons en dernier le 2 juillet 1997, la crise financière en Asie. Le 2 juillet 1997, la Thaïlande renonce à défendre le cours de sa monnaie, le baht. Celle-ci s'effondre aussitôt sous l'effet des attaques spéculatives, entraînant dans sa chute les monnaies des autres pays émergents de la région, de la Corée à Singapour, en passant par les Philippines et l'Indonésie.
Merci beaucoup, Salouane, pour tous ces événements. Alors, pour les naissances, nous en avons une. D'abord, celle de Émile Olivier, ce sera la seule aujourd'hui. Né le 2 juillet 1825 à Marseille et mort le 20 août 1913 à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Saône, c'est un fils d'un député marseillais de la Seconde République, qui est lui-même élu au corps législatif en 1857, sous le Second Empire, dans le groupe des cinq, qui désigne les députés républicains de l'Assemblée. Émile Olivier est le rapporteur de la loi qui abolit le délit de coalition et instaure le droit de grève le 25 mai 1864. Il se rallie peu après au principe d'un empire parlementaire et devient le chef d'un tiers parti. Cela lui vaut d'être appelé à la tête du gouvernement par Napoléon III le 2 janvier 1870. Six mois plus tard, il peut affirmer avec sérénité à la tribune de l'Assemblée, je le cite, « À aucune époque, le maintien de la paix n'a été plus assuré qu'aujourd'hui. De quelque côté que l'on tourne les yeux, on ne découvre aucune question qui puisse révéler le danger. » Malheureuse prédiction. Une dépêche d'Ems habilement caviardé par Bismarck, met le feu aux poudres. Pardon. Le 15 juillet 1870, obligé de justifier devant les députés la prochaine déclaration de guerre de la France à la Prusse, Émile Ollivier s'embrouille. Oui, et je le cite, « de ce jour commence, pour les ministres, mes collègues et pour moi, une grande responsabilité. Nous l'acceptons le cœur léger. » Sous les huées, l'orateur tente de se reprendre. « Oui, d'un cœur léger, reprend-il. Je veux dire d'un cœur que le remords n'alourdit pas, d'un cœur confiant. » Mais rien n'y fait. Et le mot, désormais, lui collera à la peau. Obligé de démissionner le 9 août de la même année, suite aux premiers échecs militaires, il ne reviendra plus à la politique. Et en ce qui concerne les décès, Simon, est-ce que tu as le journal sous les yeux ?
Mais bien sûr, je l'ai sous les yeux. Il y en a deux. Très précisément, Olivier de Serres, qui est né en 1539, mais qui est décédé le 2 juillet, c'est-à-dire voilà, ce 2 juillet, en 1619, à Le Pradel, à Villeneuve-de-Berre. C'était un fils de marchand drapier protestant. Et il lit très tôt ce qu'on appelait les agronomes latins, et c'est notamment lui qui, en gros, il est considéré comme le père de l'agronomie moderne, qui s'est passionné pour l'agriculture. Il est devenu le premier européen à aborder l'agriculture sous un angle scientifique. Et puis il y a également Jean-Jacques Rousseau, bien connu, qui est mort le 2 juillet 1778 à Herménonville. Jean-Jacques Rousseau, qui plutôt au début de sa vie était plutôt vagabond. Il était secrétaire d'ambassade à Venise, il a fait les 400 coups, et à 32 ans, il s'installe à Paris. Alors il est timide, il est déclassé et dédaigneux des richesses matérielles. Et cet autodidacte fréquente néanmoins de brillants écrivains et artistes tels que Voltaire, Grimm, Rameau, pour les citer. Dans les salons, on sait, il y en avait beaucoup à cette époque-là, notamment sous le règne de Louis XV. Très vite, il est connu, notamment avec son discours sur les sciences et les arts, puisque c'est un réquisitoire vibrant contre les scandaleux privilèges auxquels peuvent mener les arts et les sciences. Il s'oppose, lui, à Voltaire. Rousseau dénonce notamment les excès de la civilisation et le raffinement aristocratique. Comme remède à la décadence morale, il préconise des lois et un contrat social sous l'égide du peuple souverain. Et donc, lui, en gros, il va se poser en théoricien de la démocratie. Bon, il va mourir un peu tout seul, mais beaucoup de lecteurs... Eh bien, après lui, se verront transmettre justement la croyance en la bonté naturelle de l'homme qui va annoncer la Révolution française. Voilà, en gros, Jean-Jacques Rousseau, donc je le rappelle, mort le 2 juillet 1778.
Merci beaucoup, Simon.
Il y a une fête aujourd'hui, j'imagine aussi.
Bien sûr.
Mon cher Thomas, que fêtons-nous et qui fêtons-nous ?
Mais je suis ravi que tu me poses la question. Et aujourd'hui, nous fêtons les Martiniens.
Très original, Martinien.
Très original, en effet.
Peu de gens s'appellent aujourd'hui Martinien. En tout cas, peut-être, si vous-même, vous vous appelez Martinien, appelez-nous, mais...
Bravo.
Je n'en connais peu.
Mais en tout cas, bravo à vous. Et selon une légende tardive, Martinien et Processus seraient des soldats romains ayant reçu la charge de surveiller les apôtres Pierre et Paul dans leur prison. Sensibles à la foi et à l'éloquence de leurs prisonniers, ils se seraient convertis et auraient été, à leur tour, martyrisés. Ce qui est quand même pas de chance. Merci beaucoup, messieurs, pour ce journal historique. On se fait immédiatement une petite pause musicale. C'est « Ma chambre » de Tommy Moisy. Quelque chose, une petite musique que j'ai découvert il y a à peine 2 jours. Je vous la laisse. C'est maintenant, c'est tout de suite sur Radio Alba.
Choisis la peinture et moi je repeins.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur les ondes de Radio Alpa pour écouter la percée de l'histoire sur radioalpa.com ou sur la bande FM, 107.3 FM Le Mans. Navré pour cette petite interruption pendant cette musique extraordinaire de Tommy Moisy, Ma Chambre, parce que j'ai cliqué impromptuement sur un petit bouton. Bref, c'est moi qui vais commencer cette fois-ci ma petite chronique que j'ai appelée modestement « Le vote blanc, histoire d'un choix non reconnu ».
Alors voilà. C'est beau.
Sur le post de la percée sur Facebook, sur la percée sur Instagram, bien sûr. Et donc, c'est vrai que je me suis demandé, mais pourquoi ? Pourquoi donc le vote blanc n'était-il pas reconnu en France ? Parce que le vote blanc, il faut bien le séparer de l'abstention. L'abstention, tu restes chez toi, tu n'as pas participé à l'élection. Alors que le vote blanc, tu t'es levé, tu y es allé et tu as fait le choix de ne pas choisir, justement, c'est un oxymore, mais tu as fait le choix de ne pas choisir entre le candidat ici et le candidat de l'autre côté. Mais alors, donc finalement, ce vote blanc, c'est quoi ? Eh bien, le bulletin blanc, autrefois nommé le billet blanc, a été rendu possible déjà par le remplacement du vote à main levée par le vote par bulletin. Donc là, ça intervient dès la Révolution. Parce qu'avant, on votait donc à main levée, et ensuite, on s'est dit, bon, ça serait peut-être mieux de voter par un bulletin, avec la loi du 18 Ventôse de l'an 6, en référence à l'article 31 de la Constitution de l'an 3. Avant cela, l'abstention était la seule alternative possible au vote. Il ne semble pas exister de définition juridique très précise du vote blanc, pour ce qui concerne sa signification. Mais, selon le dictionnaire, le bulletin blanc est, et je cite, un bulletin de vote mis dans l'urne et sur lequel n'est porté aucun nom ni aucune mention. Le dictionnaire du vote de Paul Bacot le décrit comme, et je le cite, « bulletin de vote qui, dépourvu de toute inscription, ne comporte donc l'expression d'aucun choix parmi ceux autorisés ». Plus tard, le Centre d'information civique, le CIC, considère qu'il s'agit d'une feuille de papier blanc et vierge glissée dans une enveloppe. Selon le Code électoral français, et je le cite, « une enveloppe ne contenant aucun billet est assimilée à un bulletin blanc ». En 2015, sur le site institutionnel français 5e public, le vote blanc consiste à déposer dans une urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat, ou toute indication dans le cas d'un référendum. Ce type de vote indique une volonté de se démarquer du choix proposé par l'élection. Donc vous voyez qu'avec toutes ces définitions que je viens de vous citer, depuis 30 secondes, tout le monde s'endort, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne n'est d'accord sur ce qu'est un bulletin blanc, finalement. Est-ce que c'est avoir une feuille de papier blanc ? Est-ce que c'est avoir une enveloppe vide ? Finalement, chacun est à l'interprétation de savoir ce qu'est un vote blanc.
Et encore différent d'ailleurs du vote nul, qui lui est un vote, t'en parleras peut-être d'ailleurs.
J'en parle après, mais tu as tout à fait raison. Donc le vote nul, qui est tout à fait différent, c'est là, vous avez un bulletin, donc vous mettez un candidat, mais le vote est considéré comme nul s'il y a des défauts dans l'impression, si vous avez annoté sur le bulletin, voilà, si vous l'avez déchiré aussi, parce qu'il y en a qui s'amusent à le plier dans tous les sens, eh bien là, ça le considère comme nul.
Il y a des gens qui mettent même Oser José de scène de ménage souvent.
C'est vrai.
Ouais, il y a des gens. Moi, c'est ça qui me fascine d'ailleurs. Mais pardon de t'interrompre, mais c'est des gens qui non seulement se déplacent, font le choix d'aller au bureau de vote, mais ils font pas vote blanc, ils font carrément un vote nul, juste pour divertir la galerie, et un vote nul en mettant, je sais pas, ouais, ça peut être Oser José, ça peut être enfin n'importe qui, n'importe quoi, et juste pour divertir la galerie. Et ça, c'est des rois. Bravo, merci, continue comme ça.
Bah voilà, tout à fait. Mais alors, posons-nous la question. Est-ce qu'il y a des pays dans ce monde qui reconnaissent le vote blanc ?
Ah, bonne question.
Bonne question. Eh bien, il y en a plusieurs, et je vais vous en citer quelques-uns. Non exhaustivement, j'ai envie de dire. Par exemple, en Asie, notamment en Mongolie, les élections présidentielles tiennent compte des votes blancs en tant que vote valide entrant en compte dans le décompte des voix et leur pourcentage. Or, un candidat devant réunir la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire plus de 50% des voix, pour être élu, il est par conséquent possible qu'aucun candidat n'atteigne le seuil requis, même au second tour. Un tel résultat conduit alors à la tenue de nouvelles élections, pour laquelle l'ensemble des partis doivent présenter de nouveaux candidats. Ce cas de figure est évité de justesse, par exemple, au cours de l'élection présidentielle de 2017. Le président l'emporte en effet au second tour par 7332 voix, à 8,3% des votants ayant choisi le vote blanc plutôt que l'un des deux adversaires restants. Donc là, c'est le cas où le vote blanc est utile, dans le sens où il est considéré. Et en Europe alors ? Eh bien, en Europe, depuis 2003, la Suisse comptabilise les bulletins blancs dans les élections au scrutin majoritaire. Ils participent à l'établissement de la majorité absolue. Mais au second tour, c'est la majorité relative qui est appliquée, c'est-à-dire celui qui a le plus grand nombre de voix est élu. En France, les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal depuis seulement le 21 janvier 2014. Ils sont comptabilisés dans les résultats des scrutins et ne sont plus considérés comme des votes nuls, justement. Ils restent tout de même non considérés dans les suffrages exprimés, puisque transformés par le même décret en vote valide, en vote non valide. Donc justement, le vote blanc est considéré comme non valide, tout simplement, pour la détermination des majorités relatives et absolues. Voilà. Donc, en ce qui concerne la France, finalement, justement, eh bien, le vote blanc a fait son petit bonhomme de chemin, parce que on ne s'est pas réveillé un matin en disant « Non, je ne veux pas ce candidat-ci ou ce candidat-là ». Donc, les gens ont dû réfléchir à savoir « Mais comment puis-je m'exprimer autrement ?» que par ce qu'on me propose dans l'assiette, finalement, ou plutôt dans l'isoloir. Eh bien, traditionnellement, à partir de 1807, la règle juridique dominante a été l'assimilation du vote blanc au vote nul, justement. Avant 2014, tout était finalement rassemblé. Hormis pour quelques élections de la période de la Restauration, qui ont comptabilisé les votes blancs comme des votes exprimés. Cette règle a été formalisée pour la première fois dans l'article 30 du décret réglementaire du 2 février 1852. Donc, pendant quelle période ?
1852, Second
c'est
Empire.
C'est Napoléon.
Ouais. Deuxième République, Seconde...
C'est Napoléon.
C'est déjà l'Empire ?
Oui.
Ah oui. Oui, 52.
Parce que le coup d'État, c'est 51.
Oui, oui, 48, 51.
Quel jour, le coup d'État ?
Oh là, t'en demandes trop, là.
Non, je ne l'ai plus.
Le 18 Brumaire.
le calendrier révolutionnaire est fini. Non, c'est le 2 décembre 1851.
2 décembre. Okay.
Et pourquoi 2 décembre ? Parce que ça fait référence d'abord au sacre de Napoléon, 2 décembre 1804, et Austerlitz, 2 décembre 1815. 1805, pardon. Ouais. Donc voilà, c'est dans cette continuité-là que l'autre il s'est dit « je vais faire ça le 2 décembre ».
C'est le 2 Brumaire. Il s'était pas repris à plusieurs fois.
Si, si, il s'est essayé 3 ou 4 fois.
Il y a plusieurs avec une caserne de pompiers.
Des coups d'État de Napoléon III, en fait, il n'était pas à sa première tentative le 2 décembre 1851. Il avait essayé d'abord avec, vous le disiez, une caserne dans l'Est, je crois. Ça n'a pas pris. Il est emprisonné. Ensuite... Non, la toute première fois, c'est pendant la récupération des cendres de son oncle à Paris.
C'est ça.
Il veut essayer d'exciter la foule en disant « Ouais, révolution !»
Voilà, c'est ça. Tout le monde le regarde, il veut quoi, lui ?
Voilà, et puis c'est genre, mais personne ne bouge, tout le monde dit « C'est qui ce mec ?» Enfin, on s'en fout carrément de ce qu'il est. Et donc, le deuxième, c'est la caserne. Et le troisième, c'est quand il est président de la République, eh bien, avant le terme de son mandat, qui est un mandat de 4 ans, donc de 1848 à 1852, le 2 décembre 1851, il décide de faire un coup d'État. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait déjà ? Je ne sais plus comment il s'y prend, mais je crois qu'il arrête... Non, il dissout l'Assemblée, il les assemblées, et il prend les pleins pouvoirs. Comment
il fait ?
Ça
pourrait donner des idées à certains en ce moment, peut-être.
Ouais, bon, bref.
La solution d'Assemblée, ensuite...
Je ne sais plus, mais en tout cas...
L'article 16
Et je me souviens, on l'avait étudié notamment sous l'angle des journaux, et on avait étudié un journal nantais, Simon. Je ne sais pas si tu te souviens. Et en fait, ils ont eu l'info 3 jours après. Parce que le temps que l'info arrive, Et le 5 décembre, ils sont là, c'est scandaleux, mais ouais. Pour qui se prend celui-là? Mais quelle honte! Bref. Bon, tout ça pour dire qu'il a fait un coup d'état.
Oui, c'est vrai. Pardon de...
Revenons à notre vote blanc. Eh bien, il est comptabilisé donc pendant le Deuxième Empire, vous l'avez compris, sous Napoléon III, pour l'élection du corps législatif, parce qu'il a gardé quand même un semblant d'assemblée qui n'a aucune valeur. Avant d'être reprise à l'article 9 de la loi du 29 juillet 1913, rendez-vous compte, presque 60 ans, 70 ans plus tard, visant à assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales. Il n'est alors fait aucune distinction entre les bulletins blancs, les bulletins ne comportant pas de désignation suffisante, les bulletins et les enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins comportant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, et bien d'autres points que je ne nommerai pas parce que ça serait trop long. Bien que peu ou pas du tout pris en compte, depuis plus de deux siècles par les institutions, finalement encore aujourd'hui, la pratique du vote blanc s'est perpétuée et a même augmenté à la fin du XXe siècle. De nombreuses propositions de loi ont été déposées pour la reconnaissance du vote blanc. Notamment, à l'Assemblée nationale, on peut dénombrer 7 propositions de loi sur le sujet sous la 10e législature, c'est-à-dire entre 93 et 97 de 1900. 5 sous la 11e législature, entre 97 et 2002. 6 sous la 12e, de 2002 à 2007, et 8 sous la 13e, de 2007 à 2012. Au total, pas moins de 61 propositions ont été déposées entre 1880 et 2015, dont 43 après 93 tout de même. L'un de ces textes avait été adopté par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2003, mais malheureusement n'a jamais été discuté au Sénat. Donc aujourd'hui, le vote blanc n'est toujours pas reconnu dans notre pays.
Et non.
Même dans les suffrages exprimés, il est hors de propos. Mais donc depuis 2014, comme je disais un peu plus tôt, il est séparé du vote nul. Alors que, souvenons-nous avec émotion, en 2017, tous les candidats à la présidentielle avaient dit « Nous reconnaîtrons le vote blanc si nous sommes portés au pouvoir », que ce soit M. Macron, M. Mélenchon, Mme Le Pen, etc. Tout le monde avait dit « Ouais, ouais, je le reconnaîtrais, super ». Donc, il y en a un qui est passé, donc M. Macron, donc. Et qu'est-ce qu'il attend, donc, pour appliquer sa promesse de 2017 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne l'a pas fait. Ce qui est quand même dommage, puisque le vote blanc, c'est avant tout un choix, comme on c'est disait en introduction. C'est
je me souviens opinion. D'ailleurs qu'il y avait même un parti qui doit exister toujours, le parti du vote blanc. Qui,
c'est vrai
oui, qui portait justement, je ne sais plus pour quelles élections, mais le fait de reconnaître le vote blanc.
Bah oui, ce qui est tout de même logique. Hein.
C'est voilà, et je ne sais plus, je crois que c'était le parti du vote blanc, quelque chose comme ça. Voilà.
Voilà, et puis c'est vrai qu'il faudrait faire comme en Suisse, c'est-à-dire que si le vote blanc est comptabilisé et si jamais il acquiert 50% ou en tout cas la majorité absolue, eh bien ça convoque de nouvelles élections avec de nouveaux candidats, évidemment, parce qu'autrement ça servirait à rien. Voilà pour
merci pour cet éclairage du vote blanc.
Voilà, le vote blanc.
Je serai moins bête ce soir.
Voilà. Et donc, le vote blanc, c'est un choix. Hein, il ne faut pas le confondre avec l'abstention, loin de là. Tout de suite, une petite pause musicale de Ronnie Hilton, The wow. Wonder of You. On va dans les années 1959.
Wonder of You qui veut dire, Salouane
Yes, of course. Wonder of You, je m'imagine. Je t'imagine.
Comment je t'imagine.
Ça, j'en ai aucune
Wonder
idée.
Of you. Wonder, l'imagination, Wonder of you, de toi, je m'imagine, quoi, être avec toi, ou je t'imagine, toi,
toi
l'être aimé.
De toi, peut-être.
Peut-être. I play the music maintenant, et you écoutez maintenant aussi In the Percé.
Understand me when everything I do is wrong. You give me love and consolation. You give me hope to carry on, and you try to show your love for me in everything you do. That's the wonder, the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love to me is everything, and you're always there to lend a hand in all I try to do. That's the wonder, the wonder of you. I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur la percée de l'histoire jusqu'à 21h, avec Salouane et Simon toujours, et d'ailleurs Salouane qui va nous faire sa petite chronique sur les dissolutions de gouvernement.
Et oui, ce soir on reste dans le thème de la politique, puisque évidemment vous l'aurez compris, sauf si vous vivez dans une grotte au fin fond de je ne sais quel endroit, depuis un petit mois maintenant en France, la politique est revenue sur le devant de la scène.
Ah ouais ?
Et dans tous les milieux, que vous soyez en terrasse, écoutez un petit peu les tables à côté, ça parle politique.
Bah, tout à l'heure. Je reviens, c'est très vrai, vous aussi, j'imagine.
Bah oui, on était tout à l'heure.
Repas de famille, ça parle politique. Au travail, entre collègues, ça parle politique. C'est vraiment, tout ça est revenu sur le devant de la scène depuis la fameuse dissolution. de l'Assemblée nationale. Alors, c'est la 19e dissolution dans l'histoire de la République française. La cinquième, elle, en compte 6. Donc 2 sous De Gaulle, 2 sous Mitterrand, 1 sous Chirac et 2024, bien sûr. Mais la première date de quand et a été prononcée par qui ? Alors il faut remonter en 1814. Le droit de dissolution est institué par Napoléon en 1802. Mais c'est en 1814, lorsque l'aventure napoléonienne s'arrête une première fois, donc on a un retour à la monarchie avec Louis XVIII. Mais ce n'est plus la monarchie absolue d'Ancien Régime. On va garder les acquis de la Révolution, donc le roi est obligé de concéder une charte constitutionnelle dans laquelle on va retrouver un article. Le roi convoque chaque année les deux chambres, il les proroge et peut dissoudre celle des députés et des départements. Mais dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de 3 mois. En août 1815, après la défaite de l'Empire à Waterloo, a lieu les premières élections de la Chambre des députés. Une écrasante majorité de royalistes est élue au suffrage censitaire, donc assez favorable à Louis XVIII, mais dans cette majorité royaliste, il y a une grande partie qui est formée par ce qu'on appelle les ultras. Et ces ultras ont une logique de revanche, une logique de punition, en fait ils veulent punir les révolutionnaires, et au final, ça dessert plutôt le roi. Donc, Louis XVIII, qui lui était avec son chef de gouvernement, le duc de Richelieu, plutôt dans une démarche de calmer les choses, était plutôt favorable à un apaisement entre ce qu'ils appellent, l'ancienne France et la nouvelle, donc la monarchie et la monarchie absolue et la monarchie constitutionnelle, si vous voulez. Donc, dans ce contexte-là, Louis XVIII dissout pour la première fois la Chambre des députés en septembre 1816.
Ciao, les ultras.
C'est ça. Et de nouvelles élections ont lieu en octobre. Ces nouvelles élections sont une réussite. Elles donnent une nouvelle majorité toujours royaliste, mais cette fois-ci composée de monarchistes modérés. Charles X, le dernier frère et petit-fils de Louis XV, utilise à nouveau l'arme de la dissolution en 1927 et une deuxième fois en 1830. Sauf que 1830, on connaît le résultat, ça va aboutir sur les Trois Glorieuses. Alors, tout commence en 1829 avec un nouveau gouvernement qui voit à sa tête un ultra. Donc, mais parmi les élections législatives, en fait, le retour est favorable au modéré. Sauf que Charles X refuse ce résultat des législatives. Il utilise alors l'article 14 de la charte pour une autre dissolution le 25 juillet 1830, mais en fait elle n'aura jamais lieu, en raison donc de la révolution des Trois Glorieuses. On fait un petit saut dans le temps, on arrive à la Seconde République et le Second Empire, le retour du droit de dissolution qui était absent de la Constitution de 48 revient, Napoléon III, avant de devenir Napoléon III, le président Louis-Napoléon remet ce droit de dissolution dans la Constitution. Et donc,
il avait tout prévu.
Le Second Empire passe, on arrive sous la Troisième République, et pour la dissolution de cette Troisième République, de cette Chambre des députés sous la Troisième République, on s'écoute l'historien Bruno Fuligny qui en parle sur la chaîne LCP, donc la dissolution de 1877.
En 1877, c'est un monarchiste qui préside la République, le maréchal-duc de MacMahon. La République proclamée en 1870, mais elle est monarchiste majoritaire aux législatives de 1871, donc ça crée un conflit. Le maréchal-duc voit avec inquiétude qu'en 1876, il y a de nouvelles élections, les républicains ont la majorité. Le 16 mai 1877, il pousse à la démission le président du Conseil, le chef du gouvernement, Jules Simon, qui est un républicain modéré. Alors, les républicains hurlent au coup de force, mais le président ajourne les chambres pendant un mois, et lorsque les travaux parlementaires reprennent, malgré la protestation des 363 députés républicains autour de Gambetta, qui a fédéré toutes les familles républicaines, eh bien, il demande la dissolution. Il demande parce qu'à l'époque, il faut un avis favorable du Sénat pour que la dissolution soit possible. Donc, il y a un débat qui s'engage au Sénat, le sénateur Victor Hugo, éminent républicain, proteste. La colère mêlée à la justice, tel est le lendemain de la dissolution, dit-il. Néanmoins, le Sénat vote favorablement. La dissolution est prononcée le 25 juin 1877. S'ensuit une très longue et très dure campagne législative, à l'issue de laquelle les républicains retrouvent la majorité.
Quel a été le bilan de cette dissolution? Pari perdu, pari gagné?
Cette dissolution est un pari perdu pour le président de la République. Les républicains perdent des sièges, mais ils restent majoritaires. Ça signifie que le pays veut la République, ne veut pas de restauration monarchique. MacMahon, d'abord, comme l'avait dit Gambetta, doit se soumettre.
Et Gambetta lance un ultimatum au maréchal de MacMahon.
Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre.
Il va finir par admettre un gouvernement républicain, et puis il va finir par se démettre en 1879, c'est-à-dire qu'il va tout simplement démissionner. Et lorsque MacMahon finit par démissionner en 1879, son successeur, Jules Grévy, président de la Chambre dissoute, annonce qu'il n'utilisera pas cette arme, et ses successeurs non plus. Il n'y aura plus de dissolution jusqu'à la fin de la Troisième République.
Donc, vous l'aurez entendu, à chaque fois qu'il y a dissolution, une nouvelle majorité arrive à l'Assemblée. Pour 1816 et 1830, c'était des royalistes. 1877, c'est des républicains. Et vous l'aurez entendu à la fin de cet extrait, c'est la dernière fois qu'on utilise cette arme de la dissolution pour la Troisième République. On va de nouveau faire un saut dans le temps et arriver à notre Cinquième République. Et je l'ai dit au tout début de cette chronique, donc la Cinquième République a connu 6 dissolutions. Donc nous avons 1962-1968 sous De Gaulle, 1981 et 1988 sous Mitterrand, 1997 sous Chirac et 2024 sous Macron. Alors on réécoute un nouvel extrait de Bruno Fuligni pardon, pour nous parler cette fois-ci de la dissolution de 1968.
1968, Charles de Gaulle est président de la République depuis 10 ans. Il a réalisé ses principales réformes, il part pour un voyage qu'il veut triomphal en Roumanie. Oui, mais la France s'ennuie, la révolte étudiante partie de Nanterre gagne le quartier latin. Un mouvement de grève commence à paralyser l'ensemble du pays. La gauche, à l'Assemblée nationale, dépose une motion de censure et François Mitterrand hausse le ton, réclamant même la dissolution de l'Assemblée nationale.
Nous sommes décidés à réclamer les responsabilités du pouvoir.
La motion de censure n'est pas adoptée, il manque 11 voix, mais la crise sociale continue et on atteint les 9 millions de grévistes. La France commence à s'inquiéter, la France profonde qui voit venir peut-être une révolution marxiste. Et puis le 29 mai, c'est le général qui disparaît purement et simplement, affolement. En fait, il est allé en Allemagne s'assurer du soutien des troupes françaises. Le 30 mai, une grande manifestation de soutien au général de Gaulle remplit l'ensemble des Champs-Élysées, la place de la Concorde et le général de Gaulle, qui avait peiné à convaincre lorsqu'il avait annoncé le 24 mai un référendum sur la participation, fait un message beaucoup plus net à la radio où il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale.
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. La République n'abdiquera pas.
Cette dissolution est-elle un pari gagné ou un pari perdu pour le général de Gaulle ?
Cette dissolution est un pari en apparence gagné pour le général de Gaulle, puisque les gaullistes et leurs alliés remportent un véritable succès. C'est un raz-de-marée gaulliste, les 2/3 des sièges, alors qu'il n'avait la majorité que d'un siège dans la précédente assemblée. Mais c'est une victoire aussi en trompe-l'œil. Le lien entre le général et la nation s'est abîmé, et l'année suivante, en 1969, il devra démissionner.
Voilà, après ce nouvel extrait donc de l'historien Bruno Fuligni pour LCP. Qui
c'est
nous
sympa, hein, les petits machins.
Mmh. C'est des séries, juste c'est des petites capsules vidéo de 2 minutes qu'ils ont sorti, que la chaîne LCP a sorti là. Je crois qu'il y en a un qui sort tous les 2 jours à peu
près.
Oui,
là, tu vois, il y a 5 jours.
En ce moment. Donc, ils ont vraiment fait toutes les dissolutions, donc 1815... Alors, il y en a eu tellement, il y en a eu une vingtaine, plus d'une vingtaine. Ah, mais
tellement et à la fois pas tellement. C'est vrai que c'est quand même.
En même temps, l'histoire de la République, c'est pas très très long.
Oui.
Comparé à l'histoire générale.
Il est vrai.
Donc, c'est vrai ça fait beaucoup pour. Depuis 1815, ça fait quand même 20 dissolutions. Alors, à chaque fois liées au contexte de l'époque. Mais
c'est quand même historique ce qu'on vit, quoi. Tu te dis, on a vécu une dissolution des fois.
C'est ça. Trop cool. Du coup, on a failli.
Non, mais ça, c'est ouf.
On a failli connaître une motion de censure aussi, à 9 voix après.
Alors, ça peut arriver encore bientôt. Après, on va
On sait pas. Ah bah, attends,
mais
on est encore
mort. Gouvernement, dans tous les cas,
d'ailleurs, il
n'y
a
possible.
Pas eu de motion de censure réussie depuis justement
62.
Et ben,
depuis 62, ouais.
Rendez-vous l'année prochaine.
Peut-être avant.
Peut-être même avant. Ouais, c'est vrai que je m'avance.
Peut-être décembre.
Loin.
Joyeux
dès
Noël.
Décembre, c'est parti. Ouais, on verra. Mais c'est ouf. En vrai, c'est historique, quoi.
Ouais.
Oui, c'est des événements qu'on vit pas tous les jours. En général, c'est fait quand il y a vraiment besoin de changer de paysage, on va dire, législatif. Mais
oui,
là,
encore, c'est l'opposition qui fait ça.
Pour le coup, c'est plutôt un coup de poker du président Macron. Et on verra quels seront les résultats dimanche 7 juillet.
Votez le 7 juillet, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Salouane, pour cette chronique de dissolution. Tout de suite, une petite pause musicale, parce qu'on aime ça, les pauses musicales ici. Et ce sera Berrurier Noir, Porcherie, figurez-vous. C'est bien à propos, donc écoutez, c'est sympa. Dédicace à Tonton qui a un petit album de Berrurier Noir.
Très cool, Berrurier Noir.
Et c'est tout de suite et maintenant, quoi, sur Radio Alpa, comme d'habitude.
Monsieur, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national.
Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empiffent, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, Beethoven devient ultra-violence. D'un côté le système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte, à coup de schlag, le sang inonde.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Vous êtes toujours en train d'écouter La percée de l'histoire sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et nous arrivons dans le dernier quart-temps de cette émission. Nous rendons l'antenne dans 10 petites minutes. Messieurs, alors, les actualités, ça se passe, ça va, tranquille? On
oui.
est là,
bah,
on est là, on lâche rien.
À vous l'honneur.
Mais à vous l'honneur, puisque...
Moi c'est... Ah oui. Bah ça va, super. Écoutez, c'est les vacances.
Voilà.
Les vacances scolaires, alors certains crieront au scandale.
Ah, encore en vacances.
Tout le temps en vacances.
Mais écoutez, j'ai fait les études pour, hein, donc il est bien normal que...
Excusez-nous, monsieur.
Bah c'est un peu... Bah oui, finalement, les gens sont... Tu sais, quand j'en parle un peu autour de ma famille, tout ça, ils sont surpris que j'ai des vacances, mais en même temps, ça fait 5 ans que je vous dis que je serai prof. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Oh non, non, mais je vais refuser les vacances. Non.
Faites pas travailler.
Je vais travailler, hein. N'importe quoi.
Et surtout, c'est pas, quand on est prof, c'est pas toujours vraiment des vacances. Oui, il y a quand même des vacances, mais t'as toujours
y a une année
des trucs à faire. Et puis,
c'est
si
vrai.
C'est si intéressant d'être prof, et bah, soyez-le.
Bah, oui, c'est vrai.
Soyez-le.
Soyez-le. Soyez-le que vous le voulez.
Bah, ça se trouve là. Soyez-le.
Et alors Simon, tu nous
dit,
disais que tu continues la radio.
Soyez prof, ça se dit, soyez-le. Pourquoi il...
Je n'ai rien dit, on t'a posé une question.
Excusez-moi. Quelle était la question?
La question c'était qu'est-ce que tu faisais maintenant?
Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben je suis... Mais je sais pas si je peux le dire.
Bah oui, je sais pas.
Tu peux le dire.
Ah bon?
Le petit carré bleu.
Bah je suis dans le... Voilà, le petit carré bleu.
Une anomalie bleue.
Qui commence par France et qui finit par bleu. Mais ça se passe très bien, et je fais plein de trucs. À la rentrée, même chose, je ferai aussi des choses. Et puis si tout se passe bien... tourner aussi dans toute la France pour faire des remplacements à droite à gauche, pour faire de l'antenne, pour faire plein de trucs.
Trop cool.
Et la SCOL, puisque c'était là aussi d'où je viens, vient de se finir la semaine dernière, vendredi très précisément. On a eu une semaine d'examen, ça s'est globalement bien passé. On est passé devant un jury, on a fait un oral. Enfin voilà, c'était un peu de pression tout ça. On a fait des épreuves et ça s'est très bien passé. On aura la réponse normalement toutes et tous dans la promotion demain.
je crois.
Oh.
Au plus tard, ou alors ce sera jeudi. Mais normalement, c'était début de semaine. Donc, début de semaine, ça va jusqu'à mercredi, je pense. Si j'ai compris ce que c'était.
Ça dépend quelle semaine.
Voilà. Mais donc, voilà. Et bon, normalement, pas trop de suspense, mais on verra quand même.
Ouais.
C'est jamais fait d'avance.
Mais, eh ben, écoutez.
Mais voilà, très cool. Et bah, l'aventure continue.
Eh ben, super. Et toi, Salouan, toujours le manoir de
moi,
la cour,
oui,
tranquille.
On change pas une équipe qui gagne, l'irréductible manoir gaulois.
J'ai failli venir te voir d'ailleurs, mais
c'est toujours failli.
Non, non, voilà, parce que, vous bah, noterez le failli.
On vous pourquoi, attend. Hein.
Parce que j'étais en reportage et que
oui,
j'enchaînais
oui,
deux choses.
Des excuses,
oui,
des
je
excuses.
Travaille beaucoup au
parce
bar.
Parce que Agnières, c'est pas si loin de...
Brulon, de Juigné, de Parcé.
J'ai découvert, non, mais j'ai découvert plein de pays.
Tu vois, il y a Agnières qui est là, il a fait vraiment tout l'arc à côté. Genre, il a fait trois fois le tour.
Je suis passé devant le panneau, il y avait écrit Agnières 1,5. Tu vois, donc j'étais vraiment juste à côté, mais j'étais en retard. Bah non, j'étais en retard.
Mais il y avait le bar à 5 km.
Non, non, je devais aller à un autre endroit.
Mais du coup, le manoir, oui, on passe du coup sur les expositions de l'été, puisque le mois de juillet est commencé. Donc,
toujours des scolaires qui sont accueillis là.
Non,
c'est fini du coup.
Bah, du coup, juillet, c'est fini, les scolaires sont finis. Ah, oui. Là, vraiment, on se concentre sur les expositions, donc sur le costume. Donc, une exposition assez classique sur panneau. L'exposition Tour Jean Sans Peur. La deuxième, elle, par contre, c'est des vrais costumes qui ont été refaits pour l'occasion. Et donc, il y aura plein de médiations et d'animations autour de.
Avec des troupes qui viennent
du costume. Et justement, oui, le grand rendez-vous à ne pas louper, si jamais vous devez retenir une date, c'est vraiment le 27 et 28 juillet, où là, on a vraiment sur le temps du week-end, vraiment, c'est le costume sous toutes ses coutures. Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, donc 1000 ans de costume. Du 5e au 15e, on a entre 30 et 50 personnes de différentes associations et compagnies de reconstitution qui seront là, justement, pour évoquer l'évolution de ce costume. Entre le costume d'un paysan au 5e siècle et le costume d'un paysan au 15e, entre le costume du duc au 12e et le costume du duc au 15e, on a vraiment tout le panel des costumes civils pour le coup. Il y aura très très peu de militaires qui seront évoqués, avec de grands défilés de mode, vraiment tous les costumes les plus... c'est assez fou ce qui a été fait, les costumes les plus... J'arrive pas à trouver l'adjectif.
Est-ce que les gens pourront repartir avec leur bout de textile ou un truc comme ça?
Alors ça, ce sera plutôt pendant les ateliers.
Ah,
donc il y a aussi pas mal de médiation autour, donc il y a pas mal d'ateliers. Les mercredis des enfants sont pour les sont en lien donc avec ces expositions. Donc il y aura du tissage, de la broderie, tissage au peigne, tissage aux plaquettes. Tout est sur le site du manoir, lemanoirdelacour.fr, et puis sur la plaquette Facebook aussi, le manoir de la cour.
Et j'en profite pour rappeler, mais c'est en Mayenne, que la semaine prochaine aussi, du 13 au 14 juillet, le retour des féodales de Clairbois, nos amis de Clairbois, qui donc réentament la saison.
Tu fais bien de le dire, ouais.
Voilà, 13 au 14 juillet, ils ont posté l'annonce, n'hésitez pas à les suivre aussi.
Bien tout évidemment.
Comme le manoir de la cour.
Exactement.
Évidemment, parce que ce sont des gens formidables,
et oui.
Tous. Et avant de se quitter, nous avons une très grande annonce à faire. Voilà, qui n'est pas...
anodine.
Avec une certaine émotion. Après consultation
des
autorités constituantes de la PRC, nous annonçons ce soir que la PRC s'arrête définitivement sur cette onde.
Oh, définitivement, on ne sait jamais, mais en tout cas...
définitivement sur cette onde.
Ouais, ouais.
Sur Radio Alpa.
Voilà, sur Radio Alpa. Notre dernière émission se fera le 16 juillet, donc dans deux semaines. Voilà, parce que c'est une décision que nous avons tous pris ensemble. Nous avons passé de grands moments. Hein,
c'est
ça
quoi
fait
la cinquième saison, sixième saison?
Oui, ça fait cinq ans qu'on
cinquième.
Est. Donc ça fait cinq saison. Ans qu'on est là.
Oui. Ah ouais.
Et c'était formidable, mais voilà, il est temps de laisser l'antenne. Voilà.
Pour partir vers de nouvelles aventures.
C'est
aussi,
ça, une belle aventure
mais
qui s'arrête,
là,
mais c'est
ça,
le départ.
Ça demande du temps et des disponibilités qu'on a fort. Plus forcément.
Et oui.
Et
voilà.
Donc
le contexte n'est
le 16
plus
juillet
le même.
Pour la toute dernière, la
voilà.
DDR.
Comme et on va aller sur d'autres objectifs, mais ça, nous en reparlerons
oui.
Le 16 juillet. Nous
la
ferons un communiqué dans la semaine sur nos réseaux sociaux, bien évidemment.
Sûr.
N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou Instagram. Bref, il est temps pour nous de laisser la place immédiatement pour un peu de musique électronique avec Deepside, n'est-ce pas Voilà, nous laissons immédiatement l'antenne. Messieurs, merci beaucoup d'être
merci
venus.
À
merci
toi.
À toi, Thomas.
Et écoutez, eh bien, bonne semaine à vous. On se retrouve le 9 juillet sans faute. Et d'ici là, bonne semaine et allez voter.
N'oubliez pas.
Super, allez, bisous.